Bonjour tout le monde, perspective de médiation aujourd'hui avec Jean-Louis Lascoux. Je fais connaissance de lui il n'y a pas longtemps. C'est un médiateur en France. En fait, il est à Évian, on est presque voisins. Il est à Évian, je suis à Morges du côté suisse. On pourrait presque se faire des coucous à travers le lac. Il a écrit plusieurs livres. On va surtout parler de celui-là, Pratique la médiation professionnelle. Que veut dire médiation professionnelle? Quelle est sa vision de la médiation, sa vision des conflits? Et on va parler de beaucoup plus aussi, beaucoup d'écoles de médiation, de courants de pensée, de philosophie. J'aime beaucoup ce type de discussion, donc ça m'a fait beaucoup plaisir et j'espère à vous aussi. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, salut Jean-Louis.
Bonjour Pascal et bonjour à tous.
C'est Perspectives de médiation, le podcast sur la gestion des conflits, la médiation et d'autres méthodes alternatives de résolution de conflits. Aujourd'hui, nous avons une personnalité connue, un des pionniers de la médiation. Et on va parler, pas seulement, mais beaucoup de ton livre, ton approche. Donc, pratique de la médiation professionnelle, tu as développé plusieurs approches, tu as écrit aussi plusieurs livres. Enfin, t'es une grande ressource et puis ça me fait beaucoup de plaisir d'échanger aujourd'hui avec toi.
C'est réciproque. Merci beaucoup de ton invitation, Pascal.
Peut-être avant de commencer, c'est toujours sympa de un peu connaître la personne avec qui on discute. Est-ce que tu veux partager quelque chose sur toi, peut-être en dehors du professionnel? Je vois que tu joues aux échecs au piano ou c'est
Oui,
juste le
enfin, c'est
décor?
surtout aux échecs. C'est surtout aux échecs, oui. J'aime bien jouer aux échecs. J'aime bien gagner aux échecs. Je suis pas, je préfère toujours me dire, je ne suis pas un très bon joueur, mais j'aime bien gagner. Donc ça m'oblige, et c'est un défi. Et donc c'est aussi une représentation de l'idée de challenge. J'adore les challenges. J'en ai pris. Je réponds assez facilement aux challenges sur la médiation. À chaque fois, par exemple, qu'on me dit, mais c'est une situation très, très difficile. Plusieurs personnes ont essayé et ça n'a pas marché. Là, ça me fait plaisir. Je vérifie quand même si ça n'a pas marché. Je cherche à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Et évidemment que là, c'est un vrai challenge. Donc, je joue aux échecs, oui. C'est une manière de jouer aux échecs aussi, mais pour
Tout à fait.
gagner.
Pour gagner. Oui, je viens de voir ce matin un article, parce que j'apprends l'échec à mes filles et puis qu'ils disaient que pour l'école, c'est très avantageux parce que ça donne déjà le sens de perspective, de l'espace, de la logique, des mathématiques. Pour toi, elle n'est pas forte en mathématiques, la grande, mais voilà. En tout cas, pour le reste, la logique, peut-être ça joue mieux. Super. Donc, on va parler justement de ton livre, de ton approche. J'ai consulté donc ton livre et puis je trouve plusieurs choses assez intéressantes. Peut-être avant de parler un peu des techniques de ce type de questions, déjà la médiation, donc tu appelles ça la médiation professionnelle. Et je me suis toujours posé la question, je suis toujours pas sûr d'avoir la réponse. L'adjectif professionnel, est-ce que ça se réfère à l'idée de faire un travail de façon professionnelle ou on travaille dans l'entreprise, ou c'est quoi en fait l'adjectif? Il se réfère à quoi, professionnel?
Alors, les deux sens. La première fois que j'ai dit médiation professionnelle, j'ai parlé de l'exercice en tant que professionnel. Et en fait, l'idée était aussi de dire dans l'environnement professionnel. Et évidemment, j'étais dans une conférence hein, qui réunissait à l'époque plusieurs médiateurs de plusieurs écoles. Et donc, je m'étais présenté comme médiateur professionnel. Alors, les autres m'ont dit, mais ça veut dire, est-ce que tu veux dire par là que nous ne serions pas des professionnels? Et figure-toi que c'était pas ce que j'avais pensé immédiatement. Mais comme ils m'ont posé la question, j'ai dit oui. Alors, j'ai dit oui, et ça me fait plaisir de voir que tu souris, que tu ris de ça. Parce qu'en fait, moi, c'était de l'humour, hein. C'était pas autre chose. C'était juste un sarcasme. Mais ils l'ont mal pris. Et j'ai compris que cette susceptibilité n'était pas du tout professionnelle. Et donc, j'ai renforcé l'idée de médiation professionnelle et de professionnel de la médiation, pour ce qui était de se dire, il y a des photographes, je suis photographe, j'adore prendre des photos, mais il y a des photographes professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivent de leur profession. Et effectivement, je vis de cette profession depuis 25 ans et je fais plusieurs choses. Je fais à la fois de la résolution de conflits, avec beaucoup d'exigences, on en reparlera. Aussi, je fais donc de la technique, je dispense les techniques qui sont liées à la pratique de cette médiation professionnelle. Donc, c'est très méthodologique. Donc, c'est vraiment une profession qui est très large. Hein, je dirais, c'est comme avocat, par exemple. Hein, avocat, c'est tu traites du dossier et puis tu vas plaider de temps en temps des dossiers. Et après, tu vas discuter, négocier avec. Sur la médiation, c'est pareil. C'est pas seulement faire de la résolution de conflits, c'est aussi dispenser de la qualité de la relation. On va voir ce que ça veut dire. Et ça veut dire aussi faire connaître l'ingénierie relationnelle, faire des conférences, faire du coaching, faire de l'accompagnement individuel, faire de l'accompagnement collectif, du pilotage de projet, etc. C'est donc il y a beaucoup d'applications dans cette profession.
D'accord, donc c'est une façon large de comprendre la médiation, mais toujours dans l'objectif de résolution de conflits.
Avec une perspective surtout d'agir en professionnel avec une méthodologie.
Oui.
C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas d'improvisation. Je vois, j'ai entendu pas mal dans tes interviews de personnes qui interviennent sur d'autres courants de pensée qui parlent un peu d'improvisation, un peu de bon sens, de feeling. Moi, je ne pense pas que le feeling, le bon sens et l'improvisation soient quelque chose de pertinent. Il faut avoir une vraie caisse à outils, de vraie méthodologie, d'un processus structuré. J'en suis l'auteur de ce concept de processus structuré qui est rentré dans la législation en Europe et en France et dans les autres pays européens et puis de l'Europe, de dire la médiation, c'est un processus structuré. Ce n'est pas une procédure. Et il y a cette exigence-là de se dire comment on fait pour piloter ce processus structuré. Donc oui, c'est professionnel et la médiation, ça, il faut la faire sortir de l'amateurisme, de la bonne idée de oui, je suis médiateur. Quand je rencontre des gens, il n'y a pas longtemps, je rencontre des gens mais sur un plateau télé et ils me disent Ah, vous êtes médiateur? Ah, moi aussi, je fais de la médiation. Donc, alors
Oui,
je
ça c'est
lui ai
là,
répondu.
ouais, tout à fait.
Voilà,
C'est
moi,
là.
je lui ai répondu, moi aussi, vous savez, je coupe les steaks chez moi et ce n'est pas ça qui fait de moi un boucher.
Oui, ça c'est la problématique de la terminologie parce que le terme est surtout en français, en allemand c'est un peu plus simple parce que si tu dis comme le mot médiator, il n'existe pas vraiment à la base dans la langue allemande. Donc si tu l'utilises, tout le monde sait qu'on parle de la profession. Donc c'est un peu plus simple. En français, effectivement, il y a un peu
Il y
une
a une
confusion de
ambiguïté.
termes. Et voilà, dès que je fais quelque chose, même la médiation culturelle, hein, moi, une fois, quelques années, j'ai vu une annonce médiation culturelle qui cherchait des médiateurs culturels. J'ai dit, ah, c'est intéressant, je suis allé voir. Je dis, non, mais c'est pas du tout ça, c'est quoi ça? En fait, c'est des gens qui rapprochent les gens de la culture. En fait, c'est la promotion de la culture. Mais bon, bref,
Alors,
c'est.
moi, j'ai trouvé qu'il y avait une parenté entre ces approches-là et la parenté. C'est pour ça que quand il a été question de dire il faut que le mot médiateur soit dédié spécifiquement à l'approche de la gestion, parce que pour les autres, c'est de la gestion des conflits. Moi, je ne fais pas de gestion de conflits, parce que je n'entretiens pas les conflits, mais je fais de la résolution de conflits. Mais donc, il faudrait le dédier à ça. Non, il ne faut pas le dédier à une profession, parce que être médiateur culturel, c'est être un tiers entre l'apprenant, le curieux de la culture et la culture elle-même. Hein, c'est Célestin Freinet qui disait l'enseignant, le maître d'école, c'est un médiateur entre l'apprenant et le savoir. Eh bien, pour moi, le médiateur de la résolution de conflits, c'est un tiers entre les parties et le projet relationnel qu'ils vont construire. Tu vois? Donc, c'est quand même, c'est toujours un tiers. Le médiateur est entre. Mais il est entre quoi et quoi? Eh bien, il est entre les personnes et un objectif. En l'occurrence, l'objectif de la résolution de conflits, c'est d'élaborer un projet relationnel. On va en revenir dessus parce que je sais que tu vas me
Ouais.
poser une question sur ce sujet.
Oui, tout à fait. Oui, et après, peut-être ça ne s'exclut pas, hein. Tu disais avant qu'il faut un processus, il faut pas d'intuition, ou je ne sais plus quel est le terme que tu as utilisé.
De bon sens. de
de
feeling.
bon sens, voilà. C'est pas un peu complémentaire les deux approches, d'avoir un cadre à suivre, d'avoir par exemple des phases à suivre avec des outils bien définis, etc. Et puis après, quand même, sur le feeling, sur l'intention, quand je sens qu'une, je sais pas, une personne va mal, ou tu vois, il y a quand même un peu le feeling et l'intention qui doit jouer avec.
Oui, j'imagine bien que si tu me poses cette question comme ça, que c'est orienté. Et donc, non, moi, je n'ai pas beaucoup de feeling, tu vois. Donc, je sais pas bien ce que ça veut dire que d'avoir du feeling. L'intuition, je n'ai pas le sens de l'orientation. Tu vois, il y a plein de choses comme ça où j'ai des défauts majeurs. Donc, j'ai compensé en mettant en place une méthodologie très serrée qui fait un processus structuré. Et qui est processus structuré et structurant. Donc, oui, je ne dis pas que de temps en temps, ben, on va se dire, ben, il y a quelque chose qui se passe, il faut avoir à sa disposition la technicité, avoir appris la technicité pour faire face aux situations. Je pourrais dire de manière très, très rationnelle que un conflit, c'est quelque chose qui nécessite une représentation méthodologique. C'est-à-dire que si on a l'idée que le conflit est quelque chose de flou et quelque chose qui est un peu le hasard des affrontements et des émotions, que l'émotion n'est pas anticipable et n'est pas préhensible intellectuellement, eh bien, effectivement, on va pas pouvoir avoir une méthodologie très efficace. Si Par contre, si on a une représentation du conflit comme étant quelque chose qui a des invariants, alors je vais chercher les invariants du conflit. Et c'est avec cette méthodologie, je n'ai pas besoin d'intuition, je n'ai pas besoin de cette fantaisie, je dirais, pascalienne, pas par rapport à toi, je veux dire, par rapport à
Ah,
Blaise
Pascal, l'autre,
Pascal,
ouais, d'accord.
et par rapport à l'autre. Donc, c'est pas, c'est donc l'idée de la fantaisie et du sentiment. Pour Pascal, c'était quelque chose qui était important. Moi, je pense que c'est quelque chose qui relève d'un manque de rigueur et que, avec la rigueur, on arrive à coup sûr, je dis bien à coup sûr, hein, à l'aboutissement de toutes les médiations. Donc, c'est
Et
ça,
puis,
mon défi, il est là. Et c'est pour ça que, pour moi, le feeling et le bon sens, je suis très réservé. Ça ne veut pas dire que je sais qu'il y a des gens qui y arrivent, mais ils ne peuvent pas y arriver à tous les coups. Tandis que là, l'idée, c'est avoir cette exigence d'un résultat.
Donc, si on prend, parce que tu as décrit différents courants de pensée dans la médiation, le courant spiritualiste, le courant techno-juridique et le courant psychologique, toi, tu te sens le plus proche duquel? J'ai compris que ce n'est pas spiritualiste et psychologique, donc du coup, il reste qu'un seul. Tu te sens
Non,
plus proche ou c'est encore autre chose que tu
c'est encore autre
proposes?
chose. Alors, le premier, tu comprendras que. Alors, c'est le premier, c'est pas techno-juridique. Le deuxième, c'est juridique, hein, à proprement parler, mais on peut dire qu'il y a du technique aussi. Mais le premier, c'est sur le plan historique de l'évolution humaine, le plus ancien des courants de pensée, c'est quand émerge la conscience dans la vie humaine, hein, dans l'histoire de l'évolution humaine. La pensée est quelque chose que nous n'avons pas choisi, ni toi, ni moi, ni personne. Nous pensons à notre insu, à l'insu de notre bonne volonté, ou de notre mauvaise volonté d'ailleurs. Même si j'y mets de la mauvaise volonté, je pense quand même. Et je ne mets, par contre, je ne maîtrise pas l'émergence de cette pensée, et je ne maîtrise pas non plus la pensée elle-même. Je ne maîtrise pas plus le fait d'avoir conscience. Et un jour, je suis conscient. Alors, tu remarqueras au passage que très souvent, les gens se reprochent les uns les autres leur pensée et leur conscience ou leur manque de conscience. Et ce qui est quand même formidable, parce que s'ils y pensent un petit peu, ils n'ont pas fait exprès de penser, ils n'ont pas fait exprès de pas être conscient, ils n'ont pas fait exprès d'être conscient.
C'est un peu comme la communication. On ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas penser.
Voilà. Alors, tu vois, dans l'évolution humaine, il y a eu un moment donné où les gens ont pris conscience de la vie en société et de la relation aux autres. Ils ont pris conscience et à partir de ce moment-là, ils ont inventé un concept qui est fort, c'est celui du bien et du mal. Le premier concept très fort qu'on trouve partout, hein, dans toutes les religions, toutes, que ce soit monothéiste ou polythéiste. Et
Dans le
que ce
droit
soit.
aussi,
Comment?
dans le droit aussi.
Et après, on le trouve sous une autre forme dans le courant juridique. C'est la deuxième étape de l'évolution de société qui se définit à un moment donné comme le contrat social. Donc, au départ, il y a le pacte religieux. Donc, ça, c'est le bien et le mal. C'est un courant de pensée. Il y a beaucoup d'organismes de formation en France. Ils sont principaux, hein, je veux dire, l'Institut catholique de Paris, avec l'IFOMEN. Je leur fais pas de pub, hein, parce qu'ils sont très présents et ils dispensent des formations à la médiation et ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils sont, alors que c'est l'Institut catholique quand même. Je leur ai déjà dit. Et pourquoi il n'y aurait pas l'Institut musulman ou l'Institut bouddhiste qui ferait de la médiation? Et vous ne trouveriez pas que ça serait engagé religieusement? Non, ils disent, mais non, nous, on n'est pas engagé religieusement. Je dis, mais quand même, vous vous rendez bien compte que vous êtes sous la tutelle de l'évêché. Alors, ils ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils ont le nez collé contre la vitre. Donc, mais je ne leur fais pas reproche, hein, c'est comme ça. C'est un courant de pensée qui est lié à la représentation de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et donc, quand les gens sont en conflit, ben, il y a des gens qui font bien et des gens qui font mal. Et on le voit beaucoup parce que, notamment, le directeur de l'IFOMEN, hein, disait bien que ce qui est le repère dans les relations humaines, c'est ce qui est bien et ce qui est mal. Et donc, après, il y a un deuxième courant de pensée,
Donc
c'est
tu
le
dis
courant.
juste pour clarifier ça. Donc à ton avis, l'IFOMEN ou les médiateurs ou de la formation, c'est un problème de neutralité. Si tu penses qu'il y a un bien ou un mal selon comment une personne agit.
Mais absolument, ça amène après une réflexion réelle sur la posture de distanciation du médiateur. Parce qu'ils peuvent dire à ce moment-là, alors tu devances mon propos, mais ils peuvent dire à ce moment-là qu'il y a quelqu'un qui est de bonne volonté ou de mauvaise volonté, puisqu'ils se représentent les gens au travers du bien et du mal, et il y a des gens pour eux qui, quand ils ne veulent pas venir en médiation, eh bien, c'est qu'ils préfèrent le conflit. Mais ce n'est pas vrai. Il faut voir pourquoi on est en conflit, parce qu'on ne sait pas faire autrement. Moi, c'est ma thèse. Les gens sont en conflit parce qu'ils ne savent pas faire autrement. S'ils savaient faire autrement, ils feraient preuve d'intelligence. Enfin, d'une intelligence relationnelle, en tout cas. Mais ils ne savent pas faire autrement, donc ils sombrent dans le conflit. Mais ils sont pour les uns. Pour les gens engagés dans des représentations plutôt religieuses et spiritualistes, il y a cette idée de c'est bien ou c'est mal. Et d'ailleurs, ils utilisent quelque chose, un concept, qui s'appelle la bienveillance. Et quand on est bienveillant, eh ben, on n'est pas malveillant. Et ça veut dire qu'on a adopté une posture. Et ça, les personnes qui utilisent ça, elles ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas neutres. Et parfois, qu'elles ne sont pas neutres et pas impartiales. C'est-à-dire qu'elles vont choisir une personne plutôt qu'une autre, parce que celle-là, ça sera bien, et l'autre, ça sera mal. Et ils ne s'en rendent pas compte.
Donc tu dis que les approches spiritualistes sont d'office, oui, on peut presque dire biaisés selon toi, ou en tout cas difficilement neutres.
Alors, selon moi, j'aime bien comment tu le dis. Parce que
Sinon, on pense que je suis d'accord avec.
c'est le fait de dire que quand les personnes croient dans quelque chose, on ne se sépare pas de ses croyances. C'est complètement illusoire de dire dans cette situation, je ne vais pas faire intervenir mes croyances. Si par exemple, des personnes, il y a deux personnes, je l'ai vu, j'ai présenté un cas d'école, hein, un cas de médiation que j'utilise dans la formation de médiateur, qui est un monsieur et une dame divorcent, et ils ont tous les deux acheté un restaurant à Montagne, et ils ont aussi acheté des studios, un hôtel, et le monsieur a rencontré une jeune demoiselle qui faisait le standard de pendant l'été. Et il a préféré changer de partenaire de jeu et divorcer. Alors, moi, voilà, je présente ça comme ça. Déjà, rien qu'en présentant les choses comme ça, on voit de ma part beaucoup de légèreté. Et c'est pour, il y a des, pour des personnes, ça veut dire que le monsieur n'a pas tenu son engagement auprès de son épouse et qu'il a fait preuve lui aussi d'une grande légèreté vis-à-vis de son engagement de fidélité. Alors, déjà, les gens ne vont pas se rendre compte qu'en ayant ce genre de pensée, ils prennent parti. Or, moi, ce que je vais dire, c'est on ne vit qu'une fois, exerçons le talent de cette liberté. Maintenant, chacun peut voir l'importance de ses engagements à sa propre mesure. Ce n'est
Ouais,
pas la
bah,
mesure de l'autre.
dans tous les cas, en tant que médiateur, on ne juge pas.
On n'est pas là pour juger. Mais c'est très difficile de ne pas juger, parce que notre cerveau fabrique automatiquement des raccourcis et ça va être des interprétations et des jugements. Comme je disais, notre pensée s'impulse d'elle-même. Pour la contrôler, c'est très difficile.
Ça, c'est un petit peu l'expérience aussi qui aide à ça, parce que souvent, moi, je fais souvent des entretiens individuels avant des séances de médiation. Et puis, chaque fois, une partie raconte la situation, tout ce qu'a fait l'autre, etc. Enfin, tu te dis, ah ouais, je comprends, vous avez raison, c'est vraiment bizarre, c'est qui ce type, etc. Enfin, je sais maintenant gérer ça, mais. Et puis, l'autre partie, la même chose, hein, parce que chacun raconte la vérité
Bien
dans sa
sûr.
perspective. Et puis après, on voit vite que non, en fait, c'est la même réalité, mais avec une autre perspective. Et qu'il y a une sorte de parallélisme de vérités qui sont pas exclusives, en fait. C'est juste que vous avez un autre point de vue. Et puis que...
Alors moi, j'ai développé une technique pour faire face à ça, que j'ai appelé l'altérocentrage, se centrer sur l'autre. C'est-à-dire que dans ma tête, il n'apparaît plus du tout quand je suis en médiation, je le dis, parce que cet exploit-là, je n'arrive pas à le faire quand j'écoute les hommes politiques ou les femmes aujourd'hui. Hein. Quel que soit le sexe, les politiciens, je reste avec mes propos où je discrimine, où je prends parti et je fais des choix. Mais quand j'écoute des personnes en situation de conflit, oui, j'utilise cette technique d'altérocentrage qui fait que je vais me centrer sur l'autre. À aucun moment, la pensée me vient. J'ai discipliné cette pensée avec cette technique qui me vient de dire, ah, il a raison. Moi, je vais lui dire, en fait, ce que vous êtes dans une situation où vous avez vécu telle chose. Et pour vous, ce qui est important, c'est-à-dire, je vais me centrer sur la personne, je vais lui parler d'elle. Et je vais pas, à aucun moment, je vais ramener les choses vers moi. Je lui parle d'elle en tant qu'elle est autre. C'est l'altérocentrage, c'est la définition de l'altérité. C'est me centrer sur l'autre en tant qu'il est l'autre.
Un changement de perspective, si on veut.
Alors, c'est laisser à l'autre ce qui lui appartient. Alors, tout à l'heure, j'en étais au deuxième courant de pensée. Je ne vais pas dire
Oui,
pour suivre. Le deuxième courant de pensée, c'est un courant de pensée juridique. C'est le courant. Le premier, c'était le bien et le mal. Hein. Le deuxième, je vais le faire vite parce que si les gens regardent la chaîne médiateurocide.tv, ils vont trouver plein de trucs là-dessus. Donc, c'est le deuxième courant de pensée, c'est le juridique. C'est ce qui est légal est-il illégal. C'est-à-dire, au nom du droit, comme tu le disais tout à l'heure, on retrouve le bien et le mal dans le droit. Eh bien, c'est ce qui est légal et illégal. Et ce qui est légal et illégal change selon les pays, parce que les cultures ne sont pas les mêmes, les fondamentaux du bien et du mal ne sont pas représentés de la même manière,
Et
et
ça
donc
change avec le temps aussi, ça change.
ça change avec le temps, mais ça change aussi sur le plan culturel. Alors, on voit bien que ce qui est bien en Allemagne n'est pas forcément bien en France, sinon on aurait la même représentation culturelle, et ce qui est bien aux États-Unis, par exemple, avoir une arme à la ceinture, c'est bien. Et ben en France, c'est mal. Et en Suisse aussi, d'ailleurs. En Allemagne aussi, c'est des représentations qui sont quand même très ancrées. Et donc, la légalité et l'illégalité vont avec la notion de bien et de mal. Et il y en a un troisième courant de pensée, duquel je ne fais pas, j'ai pas non plus plus de sympathie, parce que ce sont des courants de pensée autoritaires, ces trois-là. Le premier, bien et mal, juste et légal et pas légal, et l'autre, normal et pas normal. C'est-à-dire,
Ça, c'est la
ça,
psychologique.
c'est le psychosociologique. C'est pas seulement la psycho, mais c'est la psychosociologie. Ça a émergé au début du 20e siècle, hein, surtout, hein, ça a commencé au 19e siècle, un petit peu au 18e, mais ça s'est complètement redéfini et défini très clairement avec toutes les représentations de la sociologie et la reconnaissance de la psychologie. Et alors, en France, par exemple, hein, d'ailleurs en Suisse aussi, la représentation de la psychologie en tant que matière enseignée à l'université, c'est nouveau. Je veux dire, avant 70, c'était pas ça, hein, c'était pas fait. Et donc, c'est récent, la reconnaissance du contenu psycho.
Ouais, avant, c'était la philosophie qui faisait ça.
Avant, c'était philo, voilà. C'était le côté sciences humaines, on appelle ça les sciences molles. Hein. Donc, tu vois, le côté bien mal, légal pas légal, normal pas normal, ça, c'est des courants de pensée qui sont très traditionnels et qui sont utilisés par beaucoup de centres de formation à la médiation.
Qui sont
Et
binaires en fait, pensée binaire, la trame de
absolument.
sens est là.
Absolument. Et ils imaginent que c'est ternaire quand ils disent c'est gris, c'est entre les deux. Mais c'est pas vrai. C'est pas parce que c'est entre les deux que ça reste binaire. Moi, j'ai développé un autre courant de pensée qui existe antérieurement, parce que on retrouve notamment Diderot, on retrouve Descartes, mais surtout Diderot, dans la recherche de la culture. C'est-à-dire que les choses s'apprennent. Être en relation, ça doit s'apprendre. Et ce n'est pas une matière qui est enseignée à l'école. Tout le monde peut en avoir fait l'expérience. Parce qu'on nous inflige une représentation de la relation. On nous dresse plutôt qu'on nous enseigne. Mets-toi dans le rang, tais-toi quand le prof parle, écoute alors que tu sais même pas ce que ça veut dire, réfléchis et on t'explique pas comment. C'est par des injonctions qu'on te dit de faire les choses. Voilà, le quatrième courant de pensée, c'est un courant de pensée de méthodologie et qui reconnaît la personne sur trois aspects. Le premier aspect, c'est qu'elle ne sait pas. Nous sommes tous nés ignorants. Le deuxième aspect, c'est que nous sommes tous nés maladroits. Et le troisième aspect, c'est que nous sommes tous nés en nous confondant avec les autres. On prend les autres pour nous-mêmes ou une partie de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a même l'exigence de dire aux autres, tu me comprends. C'est-à-dire, tu me comprends, c'est-à-dire, je suis en partie en toi. Ou l'autre est un autre moi-même. C'est ces représentations-là qui sont
Oui,
confuses.
on a une vision du monde et puis on pense tout le monde dans la même vision et puis ça va de soi et puis il est censé comprendre.
Alors, c'est des représentations qui sont. C'est la troisième représentation, enfin la quatrième, pardon, dont je parle, c'est une représentation qui est effectivement ternaire, qui remarque que l'autre, que les autres et nous-mêmes, que l'humain est ignorant, maladroit et confusionnel. Et à partir de ça, on ne peut pas lui prêter de mauvaises intentions, on ne peut pas lui prêter une intention négative par rapport aux autres, on peut constater qu'il a des stratégies, parfois merdique, parfois agressive, mais c'est toujours une intentionnalité par rapport à soi.
Et comment tu vois ça par rapport à l'idée de dire que il n'y a pas de mauvaise intention? Si la personne agit mal, c'est parce qu'elle est sous contrainte
Elle est
de
centrée
son
sur elle.
contexte.
Elle est centrée sur elle, elle ne sait pas faire autrement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu es en conflit, c'est pas que tu veux entrer en conflit. C'est pas vrai. Moi, j'ai souvent entendu ça, et que les gens sont libres de rentrer en conflit ou pas. Mais en fait, ils sont pas libres, parce
Non.
qu'on n'est pas libre quand on ne sait pas faire autrement. Et j'en ai une preuve systématique de les gens ne savent pas faire autrement. Si toi-même tu es rentré en conflit, ou n'importe quel de nos auditeurs qui sont là et est rentré en conflit, qui se souvient quand il est rentré en conflit, que tu te souviennes quand tu es rentré en conflit et que tu te dises, si j'avais su, je n'aurais pas fait comme ça. Le seul fait que tu peux te dire que quand tu es rentré en conflit, que tu as été maladroit ou que tu ne savais pas faire autrement, est la démonstration que tu peux apprendre et qu'il est possible d'apprendre. Parce que si j'avais su, je n'aurais pas agi comme ça. Donc, la personne n'est pas mal intentionnée quand elle rentre en conflit. Elle ne veut pas faire du mal à l'autre. Elle veut tout simplement, elle cherche tout simplement l'échappatoire pour elle-même. Et elle ne sait pas faire autrement que de rentrer en conflit. Tu vois, même
Et puis
des gens.
pourquoi elle sait pas faire autrement? Est-ce que tu seras d'accord avec l'idée de dire que parce qu'elle est formatée psychologiquement, socialement, ou ça rentre pas dans ton concept? Moi, c'est un peu ça la
Alors,
vision, c'est-à-dire je pense aussi que ouais.
elle peut être, elle peut, c'est possible qu'il y ait un formatage, mais ce formatage-là n'est pas volontairement appliqué. Ce que je suis en train de dire, c'est vraiment au cœur de la posture du médiateur. Par exemple, une personne est rentré en conflit fortement au point d'en arriver à des actes de violence. Si on l'amène au judiciaire, elle va être coupable parce que on va par exemple un expert médico-psy va estimer que cette personne est en capacité de comprendre ce qu'elle a fait. Et est en mesure de pouvoir être puni par la loi. Hein? Ce qui est quand même un peu bizarre qu'on mêle que des experts en matière de fonctionnement humain se disent que la loi peut frapper. Le juge peut y aller de son fouet pour punir le délinquant. Eh bien, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'en fait, est-ce que cette personne savait vraiment s'y prendre autrement que la manière dont elle s'y est prise? C'est-à-dire que si elle avait retenu, si elle avait su retenir sa violence, si elle avait su penser autrement, si elle avait su maîtriser les pensées qui ont émergé dans sa tête. Tout à l'heure, on a bien convenu tous les deux que nous ne sommes pas volontaires dans l'émergence de nos pensées.
Ça met en question le droit de façon globale, quoi.
Oui, mais
Ça veut dire
c'est la raison
t'as
pour
jamais.
laquelle je ne suis pas juriste. C'est
Et
la raison pour laquelle
puis.
je ne fais pas de rappel à la loi.
Ouais.
J'aide
Écoute,
les gens à réfléchir.
j'ai de la sympathie pour cette idée. Je crois qu'on fait beaucoup trop de droit et pas assez de médiation. Ça, je suis 100% avec toi. Mais de là à complètement l'abandonner, j'ai beaucoup d'hésitation quand même.
Alors, je ne dis pas d'abandonner. Tu vois, quand on a la compréhension de l'émergence du contrat social qui repose sur une fiction, d'abord, hein, l'homme nature, c'est complètement fictif. Mais n'empêche que le contrat social donne l'idée de la nécessité d'un ensemble de modalités juridiques, de textes qui vont rappeler à chaque personne comment elles doivent se conduire dans la société ou comment elles ne doivent pas se conduire dans la société. C'est surtout ça. Hein, puisque c'est tout ce qui n'est pas prévu, interdit par la loi, est autorisé. Mais donc, c'est comment on ne doit pas se conduire en société. Donc, c'est en fait le code civil, puisqu'on ne parle que du civil, mais on peut passer aussi en regardant un peu le pénal. Mais le code civil, c'est de constater qu'en fait, c'est un outil qui recueille des textes dont l'objectif est de dire ne faites pas ça, sinon, attention, vous ne respectez pas l'autre, vous ne respectez pas la société. Mais les gens ne savent pas ce qu'il y a écrit dedans. Mais nul n'est censé ignorer la loi. C'est le principe, c'est le postulat de départ sans lequel le juge ne peut pas juger.
Oui, bon, en réalité, tu sais quand même les choses qui peuvent avoir une conséquence grave. Tu le sais, il ne faut pas tuer, il ne faut pas rouler à 180
Ouais, mais
sur la
là, tu
route.
parles du criminel. Moi, je te parle du civil.
Oui.
Tu vois? Je te parle du civil.
Oui,
C'est-à-dire.
même le civil, c'est-à-dire tu sais que si tu violes un contrat, que ça peut avoir des conséquences. En fait, ce que je veux dire, certaines choses, tu ne le sais pas, ça, on est d'accord. Mais les choses qui peuvent avoir une conséquence lourde, là, en principe, on sait où. C'est peut-être là où le
Ben, je
droit,
vais te donner
ça.
un exemple. Je vais te donner un exemple d'une conséquence lourde financièrement, sans que la personne le sache. Et alors que c'est vrai, il y a quelque chose qu'elle ne respecte pas, mais elle ne le fait pas exprès. Je te donne un exemple. C'est un
Vas-y.
copropriétaire. Ça m'est arrivé tout à l'heure, tu vois, l'affaire. Elle me vient de m'arriver. C'est un copropriétaire. Il a un bel appartement sur Paris. Et donc, il a fait faire des travaux. Il a un appartement dont l'accès est sur les toits et il y a une terrasse sur le toit. Il a fait refaire les travaux de la terrasse et donc il est très content, c'est très, très bien. Et un jour, il y a une des copropriétaires, celle d'en dessous, qui engage une procédure contre lui parce il a pris 1 mètre de plus sur le toit. Or, c'était pas marqué dans le règlement de copropriété qu'il ne pouvait pas le faire. Il l'a fait parce que ça gênait personne. Il l'a pas fait pour nuire à sa voisine du dessous. Et aujourd'hui, figure-toi qu'il veut vendre cet appartement. Voilà les conséquences financières qui arrivent.
Ouais.
Il veut vendre son appartement, mais il ne peut pas parce qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Alors, tu vois, ce que je veux dire, c'est que les conséquences sont importantes parce que c'est à Paris, c'est pas une modique somme, c'est plus d'1 million d'euros. Et il a acheté en pensant vendre son appartement là, qu'il ne peut plus vendre. Il pensait pouvoir payer, s'acheter un autre appartement. Et donc là, il est bloqué aussi sur l'autre achat. Voilà les conséquences financières qu'il y a. Alors tu me diras, oui, c'est pas la liberté qui est complètement en cause, mais si, c'est sa liberté qui est en cause. Sa liberté de pouvoir aller et venir, de pouvoir changer d'endroit. Bon. Les conséquences sont lourdes. Donc voilà une situation où la personne ne fait pas exprès de nuire. Est-ce qu'elle a nui? Est-ce qu'elle a nui? On ne sait pas pour l'instant. Le juge a ordonné une médiation.
Ah, c'est un bon juge, ça.
Le juge a ordonné une médiation, mais il se trouve que c'est le médiateur en question. Ça n'était pas un médiateur de notre réseau. Ça n'a pas marché. Mais bon, c'était un médiateur inscrit sur la liste, hein, des médiateurs de la cour d'appel. C'était sur Paris, donc. Et l'affaire est comme ça en suspens. Mais tu vois, ce n'est pas des mauvaises volontés de la part des uns et des autres, ni de la dame.
Oui, il n'y a pas de mauvaise volonté, y a un petit peu de, comment on va appeler ça, un peu d'ignorance quand même. Si tu rajoutes un mètre sur ce qui
Alors,
t'appartient pas, c'est, ouais, tu peux quand même imaginer que, voilà, ça peut avoir des conséquences.
comme tu dis, de l'ignorance. Le problème, c'est de condamner la personne par rapport à son ignorance. Tu vois? Et c'est ce que fait la loi. Parce que sans aucun doute, maintenant que je t'ai donné suffisamment d'éléments pour pouvoir faire le tri de ces informations, tu dis, ben, quand même, il a été un petit peu cavalier, il aurait pu se renseigner, savoir se mettre. Mais quand il l'a fait, il l'a fait, quoi. Il l'a fait comme ça. Il n'a pas fait pour nuire, il l'a fait sans doute, sans aucun doute pour avoir plus de confort, sur un mètre. Et bien sûr que c'est quelque chose qui a interpellé des gens d'un voisinage parce qu'ils se sont dit il valorise fortement son appartement, il prend 1 mètre de plus, tu vois. Alors bon, c'est le phénomène humain qui est là. Alors, de fait, moi je dis si je prends cet exemple, il y en a bien d'autres où les gens ne sont pas mal intentionnés par rapport aux autres, ils sont bien intentionnés par rapport à eux. Et sans aucun doute maladroit, et sans aucun doute ignorant. Et la loi n'est pas quelque chose qu'on obtient sous perfusion. Donc, oui, nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est faux. Donc, et en tout état de cause, si la loi permettait le règlement des différends, ça se saurait et on ne chercherait pas maintenant à mettre en place la médiation. Et donc, la loi ne donne des repères, mais en tout état de cause, ce n'est pas l'instrument qui permet de manière certaine de résoudre des différends entre des différends en matière civile, hein, je parle, mais on pourrait même faire
Oui,
l'extension.
il faut peut-être considérer de façon de dire, voilà, la loi, elle donne un cadre, elle fait émerger des conflits justifiés parce qu'il y a un qui promet de plus, l'autre, ça ne lui plaît pas, c'est peut-être en son détriment, etc. Donc ça fait émerger un conflit parce qu'on a la loi. Jusque-là, elle est utile. Après, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Et puis là, je dirais justement, il y a besoin de faire beaucoup plus de médiation que de jugement. Mais peut-être. Tu vois, à un certain moment, je crois que c'est assez humain si t'as, dès que tu as plusieurs personnes ensemble, dans un groupe, même sur une île perdue, tu vas commencer à dire, mais ça on veut pas, etc. Parce qu'on a besoin pour vivre ensemble. Et la grande question, c'est après, en cas de désaccord, en cas de violation de ces règles, qu'est-ce qu'on fait avec? Je crois que c'est à partir de là, peut-être qu'il faut vraiment changer la pensée. Comment tu vois ça? Ouais. Jusqu'où on peut mettre, parce que jusqu'où on a besoin de la loi pour quand même donner un cadre à la société, jusqu'où on n'en a peut-être pas besoin. Toi, tu parles du fait la différence entre le civil et le pénal.
Moi, je te dirais que, tu vois, si on part de cette discussion-là comme ça, pour moi, la discussion, elle est faussée. Parce que c'est pas facile ce que je vais dire là maintenant. Tu vois, on a acquis dans notre culture l'idée qui a émergé fortement hein, au XVIIIe siècle avec les Lumières, qu'il fallait des lois. Et que c'était déjà antérieur, parce que dans la représentation des mouvements religieux qu'il y avait avant, dans l'autorité religieuse, mais qui exerce encore dans certains pays, hein, je veux dire, on va parler pour la Suisse et pour l'Europe, c'est l'idée que il faut de la loi. Et la réalité, c'est que ce il faut de la loi correspond à une carence dans l'éducation et dans l'instruction. En imaginant maintenant que l'on modifie les modèles d'instruction et d'éducation et que l'on permette aux personnes d'être mieux équipées, mieux outillées, aux citoyens, aux futurs citoyens, d'être mieux équipées pour pouvoir dialoguer. Regarde, je vais te prendre un petit exemple que j'adore prendre, c'est la relation avec mes voisins. J'ai des voisins qui sont des voisins tout à fait normaux comme les autres, et tu vas voir, extraordinaire. Il y avait une clôture entre nos deux maisons, entre nos deux jardins. Et un jour, je suis allé voir la voisine, qui est donc est propriétaire du champ à côté, et je lui ai dit. Je suis un petit peu embêté, je ne sais pas comment vous le demander, parce que ce que je vais vous demander, ça va transformer quelque chose chez vous. Pas d'une manière terrible, mais quand même. Elle me dit, mais quoi, quoi? Alors je lui dis, bah, écoutez, vous voyez, il y a une clôture, il y a un grillage entre votre champ et le mien, et que ça sépare. Et quand je regarde depuis mon salon, je vois ce grillage à distance, mais je le vois quand même. Je pourrais pas l'enlever. Dites-moi, ça vous dérangerait si je l'enlève? Elle me dit, mais j'ai des chats. Alors je lui dis, oui, vous avez des chats, et alors? J'ai dit, mais vos chats, ils connaissent pas la différence entre le grillage, parce que vous savez, ils ont réussi à faire des trous dans le grillage. Je ne sais pas comment ils le font, mais ils font des trous dans le grillage. Alors, je dis, parce que j'imagine que ce n'est pas vous qui avez fait les trous pour que les chats viennent chez moi. Donc elle me dit non, 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 non. Alors j'ai dit, bah, écoutez, moi ça ne me dérange pas que vos chats continuent de venir chez moi. Bon, alors elle me dit, d'accord, vous pouvez enlever le grillage. Et depuis, Tu vois, alors qu'il y a plein de gens autour qui, enfin autour, bah, partout, qui mettent des grillages, qui veulent mettre des protections, qui veulent des empêchements, etc. Eh bien, moi, j'ai réussi à discuter avec ma voisine pour faire partir le grillage. Eh bien, tu vois, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose de c'est symbolique, mais c'est très fort, parce que il y a plein d'interdits, plein d'empêchements, plein de limitations dans notre vie qui sont imposées parce que les gens ne savent pas faire autrement. Moi, j'ai une super voisine. Je suis sûr que, tu vois, s'il y avait eu une autre demande, ça ne se serait peut-être pas passé de la même manière. Si j'avais été maladroit, elle m'aurait refusé. Elle avait le droit.
Oui, tout à fait. Alors là, je suis complètement avec toi. Moi, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo aussi là-dessus pour dire que les différentes logiques, les pensées, les courants de pensée pour comment on peut produire la paix. Et il y en a un. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais celui que j'avais présenté, c'est celui qui dit qu'il faut l'équité du pouvoir ou de l'armement. Chacun se arme au maximum, et puis à un certain moment, il n'y a personne qui frappe parce qu'on va s'auto-détruire les deux. L'autre, c'est justement la loi. On doit poser la loi pour cadrer les humains. Et puis le troisième, c'est ce que tu dis, c'est aussi le courant que je représente, c'est le dire qu'il faut renforcer les ressources et les capacités de chaque humain pour faire la paix. Hein, d'avoir que ce soit dans l'éducation, dans la culture, etc. Et puis ça, justement, là, on n'aura plus besoin de grillage, etc. Donc là-dessus, je suis complètement avec toi. Après, on va peut-être pas réussir, enfin, je dis comme ça, tout le monde va pas être suffisamment éduqué pour que ça sera possible partout en tout temps. Donc il y aura quand même besoin quelque part des règles et d'intervention, voilà, d'une force quelque part pour recadrer.
Alors
Mais
moi,
je
je
suis
me
pas
dis,
sûr.
tu vois, je regarde que les choses ont fortement évolué. Tu vois, quand les gens aujourd'hui sont particulièrement sécuritaires, ils ont peur de l'envahissement des autres. On voit bien que, par exemple, les élections législatives en France sont provoquées par un État très 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 sécuritaire. Les gens, beaucoup de gens ont peur. Ont peur de qui? De l'étranger. Mais pourquoi? Ben parce qu'ils ont peur que l'étranger vienne, vienne et puis leur prenne leur pain, je sais pas, leur femme peut-être, leur fille, je sais pas. Ils ont des représentations comme ça des autres, et donc ils se disent non, il faut se protéger et qu'ils leur prennent leur richesse parce que c'est ça, hein, c'est qu'ils leur prennent leur richesse et leur représentation. Donc moi, j'ai surtout vu que quand je vais en Afrique, par exemple, eh bien, les Blancs, ils sont allés très fortement, hein, ils ont bien occupé le terrain, et donc il y a pas de temps en temps il y a des colères de la part de personnes noires, hein, qui disent mais il y en a marre, cassez-vous de là parce que vous prenez tout et vous partagez rien. Et moi, je me dis parfois ils ont bien raison. Et donc, il faudrait qu'il y ait plus de partage. Et donc, la relation sécuritaire est très forte. Les gens ont peur de ça. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sentiment. C'est le sentiment. Parce que moi, je me définis comme étant un touriste sur la planète. Et je voudrais bien qu'un seul des individus qui peut regarder notre émission, ou les autres, hein, peuvent poser la question. Pensez-vous que vous êtes autre chose qu'un touriste sur la planète? Moi, je vois que ça va, le temps passe et il est vite passé. Et donc, on a comme ça très peu d'autres possibilités de se regarder en réalité. Et si je regarde ça, je regarde les autres comme étant également des touristes. Et donc, qu'est-ce que je fais avec eux? Je peux partager. Je suis allé en Tunisie, j'ai vécu des moments extraordinaires. J'ai pris des gens en autostop. Je suis allé au Mexique, j'ai fait pareil. On m'avait dit attention, tu vas te faire couper la tête, etc. Mais moi, j'ai pas rencontré des gens comme ça. Alors, mais évidemment que ça arrive. Évidemment mais peut-être que c'est une manière de provoquer la situation. Il faut apprendre aux personnes la manière d'être en relation avec les autres. Et c'est cette forme d'instruction nouvelle qui doit s'imposer. Et là, on aura des transformations sociétales, une transformation sociétale importante. Regarde que depuis le Moyen Âge, alors que dans les rues, il y avait de l'insécurité, je me souviens un historien qui avait fait un bouquin qui s'appelait Classe dangereuse, classe malheureuse, classe dangereuse. Hein, je me souviens plus de l'auteur, du nom de l'auteur, parce que mais je me souviens de ce bouquin. Je me souviens d'un autre bouquin fait par un romancier qui s'appelait Victor Hugo, Les Misérables. C'est vrai que c'est des gens dangereux. Quand tu es dans la misère, tu es dangereux. Eh ben, c'est à cause de quoi? Ben, c'est à cause de la misère. C'est parce qu'il y a des gens qui ne partagent pas. Donc, c'est vrai que dans la médiation, moi, je prends une position qui est de dire, oui, travaillons à la fois l'instruction, mais travaillons aussi la notion de partage et d'altérité. Ça, c'est fondamental dans la culture de base de notre société. Et c'est indispensable.